Dans une semaine, du 24 décembre au soir jusqu'au soir du 1er janvier, se déroulera la fête de Hanouka. Un mot qui, comme tous les mots de la langue hébraïque, ont toujours au moins deux sens, deux significations, une façon de complexifier la pensée qui ne peut se résoudre qu'à une seule voie, une manière pour la réalité du monde d'être perçue selon des perspectives différentes qui souvent s'opposent mais aussi dialoguent, se complètent, s'affinent et se développent mutuellement. Liberté de l'esprit qui ne s'enferme jamais dans un cadre unique, dogmatique et définitif. Deux significations qui sont l'inauguration et l'éducation. Hanouka, une fête qui dure 8 jours, pendant lesquels on allume des lumières selon un rite très précis, rite qui donne aussi à cette fête le nom de fête des lumières. Hanouka, la plus longue des fêtes juives, qui commémore deux événements majeurs, la guerre et la victoire des Asmonéens de Judée contre les Grecs séleucides, plus précisément contre Antiochus Épiphane, envahisseur de la Judée, persécuteur de la religion et profanateur du temple de Jérusalem en -166 de notre ère, et le miracle de la fiole d'huile, auquel nous devons aujourd'hui la cérémonie annuelle de l'allumage des lumières. Mais les maîtres du Talmud, à notre grand étonnement, ne retiennent que l'événement du miracle de la fiole d'huile et ne racontent pas l'histoire de la victoire militaire. Ils ne s'y réfèrent qu'en passant. Le Talmud est muet sur la libération nationale d'Israël à l'époque de Juda Maccabée. Voici le récit qu'en fait le traité Shabbat à la page 21b. Que signifie Hanouka? Les maîtres enseignent, le 25e jour du mois de Kislev commencent les jours de Hanouka. 8 jours où l'on ne célèbre aucune cérémonie de deuil, où l'on ne pratique pas de jeûne. Lorsque les Grecs avaient pénétré dans le temple, ils rendirent impures toutes les huiles qui s'y trouvaient. Quand la maison des Asmonéens a eu le dessus, on n'a trouvé au temple qu'un seul petit flacon d'huile pure, portant le sceau du grand prêtre. L'huile n'aurait dû suffire au maintien de la lumière permanente du temple que pendant 1 jour. Mais un miracle se produisit. L'huile du flacon suffit pour 8 jours. L'année suivante, on institua la célébration de ces jours par des chants de louanges et de grâces. Devant le choix de la commémoration de la victoire et celle du miracle de la petite fiole d'huile, les maîtres du Talmud donc choisirent. Un choix dont les conséquences sont importantes jusqu'à aujourd'hui, dans la construction de l'homme et de sa manière d'être au monde, au sein de sa propre société et dans sa relation aux autres sociétés et aux autres peuples. Choisir la lumière et non la guerre est une mutation idéologique essentielle. Et pour en parler aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai le plaisir de recevoir le rabbin Yeshaya d'Alsace. Yeshaya d'Alsace, bonjour.
Bonjour et bonne fête à nos auditeurs à l'avance.
Voilà, bonne fête puisque ça sera que dans une semaine. Les auditeurs vous connaissent bien, vous êtes souvent venus dans cette émission. Je rappelle que vous êtes rabbin de la communauté Massorti d'Or Vador à Paris dans le 20e. Et j'aimerais tout d'abord que nous revenions un peu sur ce double événement, la guerre contre les Grecs et le miracle de la fiole d'huile. Rabbin d'Alsace.
C'est une des grandes curiosités de la fête de Hanouka, parce que la fête de Hanouka, elle s'ancre dans un événement historique avéré, qui est cette guerre contre les Grecs, sur lesquels il y a beaucoup de témoignages, notamment Flavius Joseph qui raconte ça dans le détail, mais pas seulement. Donc, puisqu'on a le livre des Maccabim, cette guerre a existé. Les circonstances historiques sont assez complexes, d'ailleurs, mais on va juste pour résumer, donc il y a l'Empire séleucide qui couvre le Proche-Orient, et puis... les Juifs décident de se révolter. Pourquoi ? Parce que, semble-t-il, on les a obligés à vouer un culte à l'empereur. Et c'est là où il y a un lien intéressant avec Hanouka. On les oblige à vouer un culte à l'empereur, on a profané le temple, les Juifs se révoltent, et de façon presque miraculeuse, si vous voulez, ils sont très peu nombreux, ils gagnent cette guerre contre les armées de l'Empire, qui sont évidemment beaucoup plus puissantes, a priori, et mieux entraînées, et mieux armées. Cette guerre a duré plusieurs années, donc je passe tous les détails. Et va donner lieu au fait qu'il y a une nouvelle dynastie qui s'installe et un royaume juif, celui des Asmonéens, qui va être indépendant pendant à peu près 100 ans. Après, les Romains vont arriver, etc. Tout ça se passe en -167, -164 à peu près, puisque c'est sur plusieurs années. Et pour le judaïsme de l'époque, c'est évidemment une victoire très importante. Maintenant, la tradition juive n'a retenu que l'histoire de la fiole d'huile. Et de cette fête, on fait une fête des Lumières. Alors, quel est le lien maintenant avec l'histoire de l'empereur ? Eh bien, les empereurs grecs, comme beaucoup d'empereurs dans le monde, se prennent un peu pour le soleil. Et donc, on fête l'anniversaire de l'empereur, en quelque sorte, c'était quelque chose de quasi divin. Sauf que là, il y avait une fête païenne, très ancienne, qui consiste à fêter le solstice d'hiver. Ce solstice d'hiver, c'est en fait la renaissance du soleil dans le système païen. Mais pourquoi c'était important pour l'empereur? Puisque comme l'empereur s'identifie au soleil, si je commémore la résurrection en quelque sorte du soleil, eh bien je commémore la résurrection de l'empereur, de sa force qui tient du soleil. Alors, les Juifs refusent ce truc-là. Évidemment, l'empereur se fâche, il n'est pas content, et il y a la révolte qui prend cours et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est curieux, c'est que cette année, on va, ça arrive de temps en temps, c'est pas la seule année, mais ça arrive de temps en temps, on fête Hanouka et Noël ensemble.
On en parlera dans la deuxième émission, mais vous pouvez déjà en parler, oui.
Bah, c'est lié allez-y, à ça. Allez-y. Juste, je signale qu'on tombe sur le 20. Mais on en parlera dans la prochaine émission. Gardons la chose dans la prochaine émission.
Et donc, ce miracle de la fiole d'huile, comment le comprendre et comment vous l'interprétez?
Alors, c'est, à mon avis, un message extrêmement important du Talmud. D'abord, le texte que vous avez cité tout à l'heure, donc on trouve dans le Talmud, de façon très curieuse, dans le Talmud qui comporte beaucoup de traités, beaucoup de sujets, on ne parle jamais de Hanouka, sauf le passage que vous avez lu. Et un petit peu plus long, il rentre dans quelques considérations techniques, mais on a deux pages de Talmud qui traitent de Hanouka, c'est tout. Alors qu'il y a d'autres fêtes où il y a des traités entiers. Donc, et dans la Mishnah elle-même, qui est la partie, disons, la plus ancienne du Talmud, on ne parle pas de Hanouka. On le signale à un moment, mais à propos d'autre chose. On signale la coutume d'allumer des bougies, qui est ancrée dans les mœurs, puisque une personne est censée en tenir compte pour des histoires de dommages, mais ça n'a rien à voir avec l'explication de la fête elle-même. Le passage que vous avez qui explique cette histoire de fiole d'huile est donc assez tardif. Et la question qui se pose, si vous voulez, pourquoi donner cette explication tardive et pourquoi elle l'a emportée? Alors, l'explication que je donnerais, je pense la plus intéressante pour nous, c'est que les sages du Talmud, qui s'écrit donc après les grandes révoltes juives, je pense à la révolte de 70 de l'ère chrétienne et celle de 135, c'est ce qu'on appelle la révolte de Bar Korba. Donc, que les auditeurs comprennent bien, il y a eu en moins 167 donc la révolte contre les Grecs. Et puis ensuite, il y a les Romains qui arrivent, qui occupent la Judée un siècle plus tard. Il y a les histoires, bon ça c'est connu parce que c'est l'époque de Jésus. En 70, il y a une révolte juive contre les Romains qui voit la destruction du Temple. Mais il y a à nouveau une révolte, qui est elle, la révolte de la dernière chance, celle de Bar Korba, qui est une catastrophe d'ailleurs pour les Juifs. Et du coup... Le judaïsme rabbinique, il prend vraiment naissance, si vous voulez, dans sa forme, après ces révoltes. Et les rabbins ne veulent pas de révolte. Ils se méfient de l'idée d'accomplissement de l'histoire, d'abord, et puis de l'idée de force. Et donc, de force armée militaire. Et donc, ils racontent cette histoire de fiole d'huile. C'est la première fois qu'on trouve cette histoire dans aucune autre source. On n'en parle jamais, sinon. Donc, je dirais presque, ils l'inventent. Pourquoi? Pour transformer, donner un sens à cette fête qui existait, où on allumait effectivement des lumières. Mais là, c'est lié à mon solstice d'hiver, plutôt, a priori. Et il donne un sens nouveau, il y a un miracle. Cette fiole a brûlé 8 jours au lieu d'une journée. Et c'est l'idée qu'ils vont donner, qui du coup va complètement transformer l'idée de la fête. Et c'est comme ça que les gens la vivent. Si vous demandez à n'importe quel enfant juif pourquoi on allume une Hanouka à Hanouka, eh bien, il vous dira à cause de la fiole d'huile. Et il va pas penser guerre, il va penser fiole, il va penser lumière. Et ça, c'est le tour de force des rabbins du Talmud d'avoir donné ce message-là parce que, encore une fois, ils refusent l'idée de révolte, ils refusent l'aventure politique. C'est un message, à mon avis, très très bon pour cette année
les années à venir. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, j'aimerais vous lire un texte de Lévinas que je trouve absolument sublime dans son livre qui s'appelle « Difficile liberté », dans un chapitre qu'il consacre à Hanouka, qui s'appelle « Le clair et l'obscur ». Et il dit « Hanouka est donc pour nous la merveille d'une lumière plus riche que les énergies qui l'alimentent, la merveille du plus issue du moins, la merveille du dépassement. La résistance asmonéenne est aussi cette lumière détachée de ses sources matérielles. Mais le texte talmudique restitue à une guerre nationale, à une guerre qui défend une culture, l'horizon permanent du prodige. Il s'agit du prodige quotidien de l'esprit qui précède la culture. C'est une flamme qui s'embrase de sa propre ardeur et là c'est une phrase vraiment sublime, le génie qui invente l'inouï, bien que tout soit dit. L'amour qui s'enflamme sans que l'être aimé soit parfait, la volonté qui entreprend malgré les obstacles qui la paralysent, l'espoir qui éclaire une vie en l'absence des raisons d'espérer, la patience qui supporte ce qui peut la tuer. Il y a quelque chose d'absolument formidable. Ce plus qui vient du moins, ce génie qui invente l'inouï bien que tout soit dit, et cette espérance qui continue à exister malgré qu'il y a peut-être plus raison d'espérer. Rabbin d'Alsace.
C'est un très très beau texte d'abord, ce texte de Lévinas, comme beaucoup de textes de Lévinas d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, il fait allusion en fait à une désinterprétation importante de l'histoire de Hanouka, qui est en fait la naissance de ce qu'on va appeler la Torah Shebaalpé, la loi orale. Mmh. Parce que c'est à ça qu'il fait allusion. Et cette force de l'esprit, cette capacité de nous donner là où il n'y a plus rien, a priori. Et là, il faut bien expliquer l'enjeu pour le judaïsme qui est fondamental. C'est que le judaïsme, à cette époque-là, c'est-à-dire dans ce passage, les périodes qu'on a citées tout à l'heure dans l'émission, donc du 1er, 2e siècle avant l'ère courante, et puis les deux premiers siècles de l'ère courante, vous voyez, on a à peu près 400 ans, qui sont fondamentaux pour l'histoire du judaïsme, où on a la mise en place du canon biblique, d'une loi écrite qui fait référence, mais en même temps, on a parallèlement à cette loi écrite des traditions, et c'est le début de la loi orale, hein, dont les racines sont très anciennes, bien sûr, mais qui va prendre de l'ampleur. Et l'idée qui va surgir de tout ça, qui va donner le talmudique, hein, puisqu'on est dans talmudique dans cette émission, qui va donner le Talmud, c'est que, dans le fond, les hommes, les chachamim, les sages, les rabbins, ont cette capacité. Mais les talmidei chachamim aussi, les élèves des rabbins, c'est-à-dire tout un chacun, dans le fond, tout être humain qui se donne un peu la peine de travailler, a la capacité d'ajouter sa pierre à cette Torah. Et donc, ça vient, si vous voulez, en contrepoint de l'idée de révélation. La révélation, telle qu'elle est décrite dans la Torah, au Sinaï, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose que vous recevez, et puis, une fois que c'est donné, c'est terminé. Et pour le judaïsme, la révélation s'arrête avec l'exil de Babylone. C'est-à-dire donc en moins 500, grosso modo. Donc après, plus de révélation. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux que lire et relire et relire la révélation passée. Mais du coup, on est dans une forme de sclérose. Enfin, c'est le risque, en tout cas. L'idée de Torah chez Béalpé, ce qui veut dire littéralement l'enseignement qui est sur la bouche.
La loi orale.
Oui, mais je préfère enseignement, Torah, moi d'abord aussi. C'est pas toujours loi, c'est pas forcément la loi, ça peut être aussi des histoires, voilà, l'histoire de la fiole d'huile par exemple, et c'est sur la bouche, c'est-à-dire qu'on a là, comme on a un cheveu sur la langue, ben on a aussi une Torah sur la bouche. Et donc c'est...
Et ce qui est intéressant par rapport à l'aliment aussi, parce que c'est quelque chose qui a du goût, et qui a du sens, parce qu'en hébreu, goût et sens, c'est la même chose.
Exactement,
donc, et en même temps, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et donc, oui, c'est effectivement très important, cette notion de loi qui est sur la bouche.
Oui, et puis c'est, alors si on veut s'amuser, je sais qu'on là-dessus, on se comprend, mais c'est aussi la bouche, la paix, mais c'est aussi Safa, la lèvre, la langue. Et donc, c'est toute cette problématique du langage et de la problématique de la capacité de penser, la capacité de parler et d'imaginer également, parce que c'est évidemment lié aussi au tam, au vouloir goûter, etc. Et même à l'érotisme, puisque la bouche est aussi le baiser, etc. Enfin, on peut aller loin avec cette affaire. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de garder l'idée que pas oral, c'est réducteur. Sur la bouche, c'est mieux.
Oui. Alors là, c'est intéressant parce que vous rencontrez un commentaire de Rabbi Tzedok HaKohen de Lublin, qui pose la question, pourquoi les maîtres ont refusé ce texte qui existait, le texte de Maccabée, qui raconte cette histoire, qui existait vraisemblablement dans, en tout cas, une partie dans une version hébraïque, pourquoi ils l'ont pas canonisé, pourquoi c'est pas rentré dans la Bible, dans la Torah écrite, Torah Shebirtav, pourquoi ils ont voulu en faire, pour considérer Hanouka comme la naissance de cette Torah sur la bouche, c'est-à-dire de cette liberté de lire, d'interpréter, d'inventer et d'imaginer.
Exactement, c'est là-dessus, moi je pense qu'il touche, Rabbi Tzedok, à quelque chose de fondamental, il touche à l'idée que dorénavant, la Torah donc chez Béalpé, cette loi orale, comme on le dit souvent, mais encore une fois, l'enseignement sur la bouche, c'est la capacité de tout individu qui veut s'en donner la peine de contribuer à la lumière du judaïsme, pour rester dans le thème de Hanouka, de continuer à donner de la lumière, vous voyez. Et du coup, ça ne peut aller qu'en augmentant. Ça ne peut pas aller en diminuant. Et c'est ce qui fait que le judaïsme a une pertinence à travers les siècles, et en a toujours une, même si, a priori, les textes sont très anciens. Et ça ne sera jamais terminé, par définition.
Et Lévinas rajoute en disant que cette lumière que vous dites pour le judaïsme, elle est placée à l'extérieur des maisons parce que c'est quand même une lumière universelle. C'est-à-dire que cette idée d'un judaïsme qui se renouvelle, c'est une idée que le judaïsme aimerait partager avec les nations. Et l'idée ici qui est importante, c'est que l'histoire de Hanouka dans les livres qui existent et qui racontent son histoire, qui est le livre des Maccabées 1 et 2, se trouve dans le canon biblique chrétien. Et il y a cette chose tout à fait étonnante, c'est-à-dire qu'il y a un texte chrétien qui est le conservatoire, qui est la mémoire, d'une certaine manière, d'une histoire très importante du peuple juif.
Alors ça, c'est une des curiosités, c'est pas la seule, où nos frères chrétiens nous servent, pour certaines choses en tout cas, de mémoire. Donc, souvent, ils se plaignent d'avoir coupé les ponts avec le judaïsme, mais ce qui est vrai, un peu trop peut-être, mais en même temps, ils ont conservé des choses que nous, on aurait oublié sans eux. Alors, c'est les livres des Maccabim, c'est les œuvres de Philon d'Alexandrie, c'est les œuvres de Flavius Joseph, et d'autres petites choses comme ça. Et donc, grâce au christianisme, ces œuvres qui sont des œuvres juives, complètement, qui n'ont rien à voir avec le christianisme, a priori, hein, c'est des œuvres complètement juives, eh bien, on les a encore, et grâce à eux, on peut les étudier.
Et les lumières peuvent se ressentir, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, cette Hanoukia, cette menorah, comme une main de lumière, comme une main de feu qui est tendue à l'autre. Nous entendons un passage de Judas Maccabée de Handel, chanté par Janet Baker. J'ai dit dans mon introduction que Hanouka signifie à la fois inauguration et éducation. Je me demande si on ne peut pas comprendre ce double sens du mot par le fait qu'éduquer, c'est inaugurer. C'est-à-dire inaugurer de nouvelles façons de voir les choses, un petit peu comme on a parlé l'imagination tout à l'heure avec cette Torah qui est sur la bouche, une sortie de préjugés et des préjugés et de leur transmission, et la capacité par l'étude à repenser notre rapport au monde, et dans le cadre de Hanouka, penser la conscience humaine comme capable de toujours préférer la lumière et pas la guerre, Yeshaya d'Alsace. Un petit peu ce qu'on a dit au début, mais j'aimerais qu'on réinsiste sur cette...
Alors c'est une curiosité. Dans l'histoire juive, on a eu des guerres. Ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière. Et même si les Juifs, dans leurs longues années d'exil, a priori n'avaient pas d'armée, pas d'État et donc pas de moyens de faire la guerre. Mais dans la Bible, il y a des guerres. Il y a les guerres de Josué, par exemple, conquête de la terre de Canaan. Il y a les guerres du roi David, du roi Jéroboam, par exemple, qui est un grand guerrier. Et il y a les guerres des Maccabim. Eh bien, curieusement, toutes les guerres que nous avons... On n'en fait pas quelque chose, on n'en fait pas une fête. On aurait pu faire une fête de la conquête de Canaan, ça n'existe pas. On aurait pu faire la conquête de Jérusalem par le roi David. Il a conquis Jérusalem, ben, ça n'existe pas. Yom Yerushalayim du roi David n'existe pas. On aurait pu faire, etc., etc. Vous voyez, toutes ces batailles qu'il y a eu. La seule cas, c'est les Maccabim. On en fait une fête. Et les rabbins la détournent. Ils en font une fête de la lumière. Qui était déjà d'ailleurs une fête de la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la victoire militaire même si elle existe, parce qu'elle est signalée dans la formule qu'on dit au moment de l'allumage des bougies. C'est pas qu'on l'oublie complètement, elle est là. Mais la guerre est au service de la lumière, elle est au service de l'indépendance, elle est au service de la survie du peuple juif et de son esprit, puisque la Hanouka représente cela. Et elle n'est pas la guerre pour la guerre. Il n'y a pas de 8 mai ou de 11 novembre dans le judaïsme.
Mais ça peut être dangereux parce que des gens peuvent dire, pour préserver notre culture, avec un sentiment d'avoir une culture supérieure par rapport aux autres, ils seraient prêts à faire la guerre. Et ils vont dire, c'est pas la guerre pour la guerre, mais la guerre pour la culture. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, me semble-t-il, en tout cas moi c'est ce que je ressens, quelque chose de la responsabilité du changement de point de vue sur les choses qui nous invite, me semble-t-il, à réévaluer aussi la traduction du texte biblique, et en particulier de l'un des noms de Dieu, qui se dit en hébreu « Adonai Tzevaot », qui est traduit, et j'ai encore regardé aujourd'hui de nombreuses traductions à travers les siècles, par « le Dieu des armées ». Et ça ouvre la porte, justement, à un choix idéologique inverse à celui qui se dégage de la fête de Hanouka que nous proposons aujourd'hui. Et je pense que le texte du prophète Zacharie milite en ce sens, c'est-à-dire ce renversement de valeur, dans la mesure où le nom de Adonai Tzevot est précisément convoqué dans un verset qui résume notre propos. Dans une vision, je rappelle un petit peu le texte, le prophète voit une menorah, donc un candélabre, à cette branche, entouré à droite et à gauche de deux rameaux d'olivier. Et l'ange présent dans la vision lui demande s'il en connaît la signification. Et le prophète répond qu'il ne sait pas. Et l'ange lui dit alors, Vayahan vayomer elai le morze, el zerubavel le mor, lobe chayil, ve lobe koar, ki im beruchi amar Adonai Tzevaot, ce n'est pas par l'armée, ce n'est pas par les armes, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel Tzevaot. Et c'est justement Adonai Tzevaot qui est convoqué ici pour dire la lumière et non la guerre. Et à ce moment-là, je me pose la question, quelle serait dès lors la traduction possible de ce nom, Rabbin d'Alsace? Et peut-être qu'un retour à l'étymologie du mot Tzevaot est sans doute une voie précieuse. On sait tous les deux que le verbe Tzava signifie se regrouper, ce qui a donné le sens dérivé d'armée, parce qu'on regroupe. Sûr. Ça a donné le sens de constellation, c'est-à-dire constellation céleste, un groupement d'étoiles, mais ça signifie aussi vouloir et désirer.
Alors, d'abord sur ce terme, le Dieu des armées, qui est très important, et en effet, très souvent mal traduit, mais c'est pas tant qu'il est mal traduit que mal compris. Parce que les armées en question, là, dès la Genèse, ils sont déterminés, les cieux et la terre, et toutes leurs armées, si on traduit littéralement, ça va.
Moi, je traduirais toutes les constellations.
Mais évidemment.
Oui.
Ils n'ont pas d'armée. Mmh. Ça va de soi. Mmh. Donc, Tzevaot, c'est les armées célestes au sens des étoiles, des constellations. C'est une évidence. Mmh. C'est pas les armées militaires. Et Dieu n'est jamais le Dieu de la guerre. Dans la Bible, de toute façon, tout au long de la Bible, il n'y a pas besoin d'attendre Hanouka pour ça. C'est le Dieu de la paix, c'est le Dieu qui cherche la paix. Qu'il inspire de temps en temps le guerrier, il y a quelques passages comme ça aussi. Mais c'est toujours, même le psalmiste, vous voyez par exemple, il inspire la même chose. Le roi David, le grand guerrier, lui aussi, il est dans cette même dynamique. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est l'étymologie plus rare qui vient du chaldéen, je crois, de Tzava, qui veut dire aussi désir.
Désirer, vouloir.
Désirer, oui. Vouloir. Du coup, ce serait le dieu des désirs, puisque c'est un pluriel. Ou du désir, alors là,
Je vais vous poser la question.
Des désirs, restons dans le pluriel. Ou alors le dieu des étoiles. C'est pas la guerre des étoiles, c'est le dieu des étoiles. Et donc le dieu du rêve, parce que les étoiles, c'est le rêve. Les étoiles, c'est le futur. D'ailleurs, ça rejoint, vous voyez, l'histoire de Torah chez Baal Peh. Qu'est-ce qu'est la promesse fait à Abraham, au patriarche, faisant « ta descendance sera comme les étoiles, qui ne peut pas se compter ». C'est-à-dire que, dans le fond, c'est comme la Torah, la descendance de la Torah écrite, c'est la Torah orale. On ne peut pas la compter, elle n'est jamais finie. C'est cette même idée, et ça illumine bien plus loin que ce qu'on croit. C'est l'idée d'ailleurs qu'on sait aujourd'hui qu'une étoile, on la voit alors qu'elle est déjà éteinte, on la voit encore, c'est extraordinaire. Donc ça ne se finit pas finalement. et ça donne plus de lumière que ça n'en a l'air. Vous voyez, ça rejoint complètement l'idée de Hanouka. Et chez le prophète Zacharie, Zacharia, où d'ailleurs que ce verset est en fronton de la synagogue de Strasbourg, la synagogue de la paix. Donc c'est intéressant qu'on a mis le dieu de la guerre, le dieu des armées, vous voyez, en fronton de la synagogue de la paix, parce que c'est pas le dieu de la guerre, justement, c'est pas le dieu des armées. Mais au passage, cette expression mal traduite et surtout mal comprise, elle est un des quiproquos faits par Simone Veil, par la ministre, la philosophe, Veil avec un W, qui était une juive un peu problématique, bon, une femme de génie certes, mais qui aurait peut-être mieux fait que plutôt de passer son temps à faire des versions latines et grecques, j'ai rien contre, mais faire un petit peu d'hébreu, ça lui aurait évité d'avoir une espèce de haine de soi délirant qu'elle avait. Et notamment à ces idées que le judaïsme était le dieu de la guerre, elle avait déliré sur cette affaire. Donc, c'est un des conseils qu'on a donné aux gens, allez toujours, méfiez-vous des traductions et méfiez-vous de vos interprétations hâtives.
Oui, alors ce qui est important dans cette méfiance, c'est d'essayer justement de retraduire, de recomprendre. Et là, on comprend avec vous que Tsevaot, c'est le dieu des armées célestes, donc il faudrait, pour enlever le terme d'armée qui donne cette ambiguïté, parler de dieu des constellations célestes. Et une tradition de lecture rapportée par Lévinas, qui a lui-même la reçue de son maître, Monsieur Chouchani, invite à couper un mot en deux et d'utiliser la même lettre comme fin du premier mot et début du second. Ainsi, Tsevaot, et ça c'est mon interprétation, peut se lire Tsevaot, c'est-à-dire désir de la lettre, par rapport à Tseva comme désir, ou communauté de la lettre. Et à ce moment-là, Adonai Tsevaot se traduit alors comme dieu du désir de la lettre, ou comme dieu de la communauté des lettres, un dieu, j'ai presque envie de dire, qui invite à l'école, à la lecture, à une pensée toujours renouvelée par l'étude, en un mot, Hanouka, Ravin d'Alsace.
En plus, il faut ajouter que ce que vous avez dit, dieu des arrêts, c'est pas dieu, c'est le tétragramme, qui oui. Lui-même n'est pas dieu, c'est pas Elohim. Donc, de toute façon, c'est le fait d'être en devenir qui est désir de l'être. Alors, oui, j'ai fait un jeu de mots. Oui. L'être avec apostrophe et le désir de l'être haute, les lettres pour écrire. C'est-à-dire qu'on est dans toute autre chose. Mais quand Zacharia, le prophète Zacharie, dit ce verset qu'on a commenté, et qui, entre parenthèses, passage de Zacharia qu'on lit à Hanouka, parce que c'est la Haftara pour Hanouka, on le lit à la synagogue. Ce passage-là. Donc, les sages qui nous ont fait lire ce passage savaient ce qu'ils faisaient. Et le Ruach, l'esprit de Dieu, ça nous ramène aussi à la Genèse. C'est pas que les Tsevaot, que l'esprit de Dieu plane sur la surface des eaux. Oui. L'eau, dans la tradition juive, symboliquement, c'est la Torah, souvent. Hein, on associe l'eau à la Torah. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a un esprit qui souffle sur l'eau, qui la met en mouvement. Mais c'est bien ce qui se passe avec la Torah orale. Et par rapport à la Torah écrite, c'est cette mise en mouvement, ce souffle qui peut être le vent aussi, parce que ruach en hébreu, c'est aussi le vent, c'est l'esprit, c'est ce qui fait que l'eau qu'on croyait stagnante et peut-être même insalubre, elle est salubre, elle s'évapore, elle fonctionne et elle va tourner, etc. Enfin, vous voyez, on est tout face à une symbolique du mouvement et de la vie de l'esprit qui représente, à mon avis, la possibilité pour le judaïsme de vivre bien au-delà de au pied de la lettre, bien au-delà de la limite dans le temps historique, et de traverser des centaines d'années, voire des milliers d'années, et d'exil et d'existence.
Et alors, ce qui est intéressant dans ce Tsevaot comme communauté des lettres, comme lieu de regroupement des lettres, j'ai presque envie de dire des gens de lettres, sans que ce soit élitiste, des gens qui s'intéressent aux lettres, aux humanités d'une certaine manière.
Toujours le jeu de mots sur lettres.
Le jeu de mots, c'est que c'est créer des communautés d'études. Et ça, je crois que c'est important. Vous en rencontrez beaucoup dans votre travail de rabbin. Vous m'avez raconté hors antenne qu'il y a même des amis de l'hébreu, ce que vous ne saviez pas et moi non plus.
Il y a une association des amis de la langue hébraïque. C'est ça, des amis de l'hébreu qui étudient dans toute la France, qui étudient la langue hébraïque.
Et qui ne sont pas juifs nécessairement.
Pas forcément, c'est tout à fait ouvert à tout un chacun. Et c'est tout à fait remarquable, des gens qui font un vrai travail d'apprentissage et pour rentrer justement dans cette subtilité du texte biblique et puis du texte juif plus général.
Alors sur cet encouragement à l'étude et en reformulant encore cette belle phrase de Lévinas qui explique la lumière de Hanouka comme le génie qui invente l'inouï bien que tout soit dit, nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Merci Rabbin Yeshaya d'Alsace pour cette belle conversation que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine, car nous avons encore beaucoup de choses à nous dire sur cette fête de Hanouka et ses multiples significations. Donc, bonne fête à tous, joyeux Hanouka et joyeux Noël, puisque on se reverra que le lendemain. Merci encore Yeshaya d'Alsace. C'était Talmudique, une émission préparée par Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Julie Garraud, à la réalisation, comme d'habitude, Dany Journeau. Kol Touv, Leitraot, au revoir, très bonne fête, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.